Nous sommes mercredi 29 mai 2024 et vous écoutez le Dojo Bar.
Bah
bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Ah oui, ça c'est un bonsoir comme on les aime.
J'allais dire, bonsoir. On est un petit comité.
Oui, voilà, tout petit comité. Monsieur Jean Fulgence. Ah si, il est revenu, il est parmi
incroyable.
Nous.
Incroyable.
C'est moi. Bonsoir Jean.
C'est parce que ça parle de RPG.
Bonsoir.
C'est ça. C'est, on a fait. Tiens, on est comme ça. RPG. level up. Oui, il débarque. Voilà. Et attendez de voir les tacticals, hein. Vous allez voir comment ça marche. Hein, parce que c'est exactement la même stratégie. Tactical.
Ah, stratégie.
Ah, où ça?
Des waifus.
Oh.
Voilà, ça marche bien. Bref, c'est bien parce qu'on commence par dire que de la merde, donc ça me fait extrêmement plaisir. Donc, El Sujeto de ce soir, voilà, pourquoi non, avec cet accent-là
parce que Mario, El Mario del Papieto.
Si.
La Casa de Papel, non, pardon. la Mario de Papel.
Très bien. Donc ce soir, nous allons parler de Mario, de Paper Mario, la porte millénaire.
Une fois.
Qui est donc le Paper Mario qui était à l'origine sur la GameCube, qui est maintenant sur Switch, et on expliquera remake, remaster. Enfin voilà, je garde cette question pour après parce que vous.
Est-ce que tu veux vraiment enflammer le débat ou est-ce qu'on parle du meilleur Zelda? T'as se taper dessus. Hein.
On va pas faire ça maintenant. Voilà.
Xenoblade 2 est un jeu bien.
Non.
Voilà, on va tout. C'est bon.
J'aime pas Twilight Princess.
J'ai détesté Okami.
Non, ça c'est normal.
ça c'est moins choquant.
Ça c'est moins choquant. Ah merde.
Je suis outré.
On va pas y arriver. Bref, donc nous allons parler de Paper Mario, la porte millénaire. Mais avant cela, nous allons commencer par notre traditionnel tour de table de l'actualité. Et je vais passer la parole à Antix, puisque les autres n'ont pas travaillé. Voilà, je le dis. Moi, je dénonce.
Mais...
Oh merde.
Voilà ce qui se passe.
Ouais, en plus, donc... c'est le moment où j'ai perdu mon onglet pour mon actu. Super, merci.
Ah,
c'était vachement préparé.
Ah bah,
oh,
super. Machin, il travaille, mais en même temps, il fait de la merde.
Allez hop, merci voilà. La magie du bouton précédent sur mon navigateur.
Tu le gardes au montage, hein.
Oui, ça, je le couperai.
Ne refaites pas ça chez vous, cela a été réalisé par des professionnels. Et je ne parle pas de la coupure au montage.
Je le couperai.
Wink,
j'ai entendu
wink.
Les guillemets. Allons-y. Donc,
bref,
c'est à propos de la rédaction de Game Cult.
Ouais, parce que j'ai fait semblant de travailler, donc je suis allé sur Twitter voir un peu les tendances. Non.
Oh, le gros bâtard.
Journalisme professionnel pareil.
Exactement.
Hein, ne reproduisez pas ça chez vous, sauf si vous travaillez sur BFM.
Je vous rappelle que j'ai ma carte. Hein. J'ai pas dit de quoi, mais j'ai ma carte. Bref, du coup, Game Cult, est-ce que vous connaissez ce petit site indépendant, exigeant, qui a été racheté par. Alors, pas indépendant du tout, parce que ça fait des années qu'il l'est plus, mais qui a été racheté par Reworld Media fin 2022. Et dont toute sa rédaction historique s'est barrée pour aller faire autre chose. Notamment, il y en a qui se sont lancés dans Origami, un autre média jeu vidéo. Et bien, sachez que les petits gars qui ont décidé de reprendre le bousin et de faire tant bien que se peut de faire des bons trucs dessus, ont lancé une petite bouteille à la mer. Alors, c'est KL, donc, qui est un des rédacteurs du site, hein, si j'ai bien compris.
Oui.
Il nous parle un petit peu de où ça en est, parce qu'il se trouve que... et effectivement, qu'ils le disent, je n'avais pas fait attention, mais depuis la sortie de Unicorn Overlord, à peu de choses près, il n'y a pas eu de test sur GameCult. Et que globalement, en termes de contenu, tout ce qui est article premium, émission télé, donc ce qui est un petit peu ce qui a fait la renommée du site pendant ces 10 dernières années, on va dire, voire 5 dernières années pour les contenus premium, c'est plus publié. Et où est-ce qu'on et pourquoi tout ça? On avait un peu tous senti venir quand on a vu qu'il avait racheté, c'est que un mec au-dessus du rédac chef, un manager, sans plus de détails, leur aurait gentiment demandé d'arrêter de faire tout ce qui était contenu éditorial et juste de faire de la news, plus de tests, plus de solus, plus de vidéos, plus d'émissions. Donc voilà, on a un site qui a essayé de vivre tant bien que mal, hein, avec des rédacteurs qui ont essayé de faire des choses à leur façon et qui est en train de
qui faisait des bonnes choses d'ailleurs.
Ouais, pour le coup, il y avait vraiment des trucs sympas. Mais qui, du coup, est en train petit à petit de mourir dans l'indifférence la plus totale. Ce qui est triste lorsqu'on sait qu'à côté, jeuxvideo.com s'est transformé en vitrine publicitaire aussi de son côté. Hein. Il y a le même problème sur le site historique français. Donc en fait, en ce moment, il n'y a plus trop de sites de jeux vidéo, de généralistes d'actu, quoi, qui fonctionnent. C'est un petit peu triste.
En francophone, en tout cas. Je...
Bah si, il y, y a le Nintendojo. FR.
Exactement.
Voilà. De toute façon, quand on parle de jeux vidéo, on parle que de Nintendo.
Oui, parce que ouais, le reste, c'est pas du jeu vidéo.
Bah, Sony sort pas de jeu et Microsoft ferme tous ses studios, donc à partir de ce moment-là...
Sony bosse sur sa PS6.
Je rappelle que le dojo a été séparé, les forums du dojo ont été séparés il y a quelques années en deux catégories, jeux vidéo pour parler de Nintendo et pas jeux vidéo pour parler du reste.
C'était pas mal. Et à cela s'ajoute une petite nouvelle qui est sortie à peu près le même jour que cette petite série de tweets, qui est que IGN, donc le gros conglomérat de presse jeux vidéo, a racheté une tripotée de sites anglophones, notamment Rock Paper Shotgun et Eurogamer, pour les plus gros
et,
qui me viennent en tête.
Et GameIndustry.biz, qui est un gros site aussi,
ouais.
qui parle plus effectivement de l'industrie du côté business, mais il y a vraiment, c'est pas un petit bout, hein.
Voilà, et ce qui est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça veut dire concentration des médias, et notamment via une boîte qu'on connaît quand même pour être plus du côté du public rédactionnel que du test sérieux et de la critique constructive. Donc voilà, c'est un petit peu la mort de la presse jeux vidéo, enfin encore plus qu'avant. Donc voilà, soutenez Canard PC, soutenez Origami, profitez-en pendant qu'il y en a encore qui font ça sérieusement, aimez ce genre de contenu.
Effectivement, Canard PC, c'est peut-être le moment... Enfin, si vous étiez abonné dans le passé et que vous ne l'êtes plus, ça peut être le moment d'y retourner.
Soutenez Silence on Joue aussi, très bon podcast, notamment qui peut être financé via un abonnement spécial Libération. Donc vous faites d'une pierre deux coups.
Tout à fait, c'est un très bon plan aussi. On pensait pendant un moment que la solution serait peut-être justement dans ces rédactions plus traditionnelles. On avait appris par exemple que Gamekult avait failli être racheté par le Figaro. Alors, ça paraît bizarre comme ça quand on le dit, mais en fait c'est pas si idiot que ça, parce que finalement il y a une grosse rédac derrière qui peut donner quelques moyens au site et puis mutualiser un certain nombre de dépenses, parce que voilà, ça reste un organisme de presse. Donc, on peut aimer ou pas le Figaro, ça reste quand même un journal assez sérieux dans l'ensemble. Donc ça aurait permis à effectivement une petite rédaction de ce type-là de survivre, je veux dire, de manière un peu raisonnable.
Surtout que le Figaro, mine de rien, ça reste un gros quotidien français, et typiquement, alors je sais plus s'ils les font encore, mais le président de Nintendo France à une époque donnait une interview à peu près par an, et c'est toujours pour le Figaro.
Oui, ça me choque pas, parce que finalement c'est le journal qui parle aussi un peu business, hein, malgré tout, ça reste un journal de droite, journal d'opinion de droite, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, et puis régulièrement nous arrose de conneries, très bien, et ça n'empêche pas que ça reste un journal qui est dans l'ensemble relativement sérieux.
Oui, et puis même, enfin, quand je parle de Libération pour Silence on Joue, mais Le Monde aussi a sa section Pixel dédiée aux jeux vidéo, aux nouvelles technologies, qui est quand même plutôt quali. Je crois que Ouest France aussi a une petite rédaction avec d'anciens journalistes jeux vidéo, notamment du journal du Geek, et je crois un ancien Gamekult aussi.
Oui, c'est Alex le serveur, non ?
Il me semble que c'est lui, ouais, c'est Alex.
Ouais, et
tant que j'y pense, oui. Pixels chez Le Monde, pas mal, oui. Du tout aussi, leur petite rubrique.
Effectivement, et j'y vais le mag. Hein.
Oui, le taulier.
Il y a encore des choses qui existent, hein, mais c'est vrai que les sites historiques français, faut pas trop compter sur eux en ce moment. Quoi.
C'est vrai que ça va pas très bien. Nouvelle plus réjouissante, je vais prendre le relais, puisque là, je sens que sinon la déprime va s'installer très rapidement. Connaissez-vous ce petit jeu qui s'appelle Mario Kart 8 ?
Tu veux dire ce jeu qui a 10 ans ?
Ce jeu qui a plus de 10 ans.
Ah non, apparemment c'est aujourd'hui.
C'est officiellement rétro s'il a plus de 10 ans.
Bah oui, c'est un jeu rétro.
Il est sorti sur une console que tout le monde ignore, mais.
Rien à voir avec le développeur, hein, pour ceux qui nous écoutent.
Ah bah non, bah oui, ils ont pas sorti de jeu depuis 10 ans. voilà.
Donc, Mario Kart 8 est officiellement devenu le jeu le plus vendu de Nintendo de tous les temps. Voilà.
Wow. Donc plus que Wii Sport.
Plus que Wii Sports.
Ça a dépassé les 80 millions.
Mais Wii Sport, il n'était pas vendu, il était avec la console, ça compte pas.
Bah si, ça compte aussi.
C'est de la triche.
Oui.
Moi aussi, je peux mettre mon jeu de merde dans ma console vendue à des millions d'exemplaires.
Comment tu crois que Super Mario Bros. Est vendu à 40 millions d'exemplaires ? Il était fourni avec la NES.
Ah, c'est pour ça !
Ça aide un peu. Ça aide un peu. Mais ça n'empêche pas que je pense que le jeu se serait quand même vendu comme des petits pains. Mais voilà.
Ah oui, Wii Sport au Japon, il n'était pas vendu avec la console et ça a très bien marché aussi. Hein.
Oui. Après, il était vendu à vraiment pas cher. Hein, donc...
C'était un petit peu le jeu phénomène de la Wii. Hein.
C'est ça. Bref, donc voilà, Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe, hein, les deux sont comptés en même temps, même si c'est un petit peu abusé. Voilà, mais c'est devenu le jeu le plus vendu de Nintendo de tous les temps. C'est donc une machine à imprimer du pognon, puisque je rappelle que 9 en magasin, il vaut toujours 60 balles.
Oh putain, les mecs. En
plus, vous pouvez mettre 25 euros pour des DLC en rab.
Voilà. Oh.
De bon contenu quand même, hein. Il y a pas mal de courses.
Voilà, le contenu, ça va, il y a pratiquement une centaine de courses. Maintenant, je crois que c'est 96 au total.
96, ils sont pas durs, on va en faire 4 de plus pour arriver à 100, moi, ils me dégoûtent.
Et ce sera pour Mario Kart 9. Voilà, pendant ce temps, la Switch dépasse la DS au Japon, donc devient la console la plus vendue de l'histoire au Japon. Plus de 33 millions d'exemplaires.
Il y a combien d'habitants au Japon ?
Beaucoup.
Beaucoup, deux fois plus qu'en France, 120 et quelques millions.
Ouais, globalement, t'as à peu près un quart du Japon qui a une Switch. Hein.
C'est énorme.
Ouais.
Alors après, je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui en ont deux aussi, hein. Faut quand même, faut toujours
relativiser. Oui, j'en ai comme ça, oui. Voilà.
Moi, j'en ai trois.
Tu es né comme ça ?
Oui.
Là, on dirait les gens qui achètent des PS2 parce que la leur est cassée.
Et la Switch, c'est aussi maintenant plus de 140 millions d'unités dans le monde, c'est-à-dire qu'elle se rapproche dangereusement du record établi par la PS2, si je ne dis pas de bêtises, parce que la DS était juste en dessous.
Ouais.
Donc voilà, donc peut-être que la Switch va devenir la console la plus vendue au monde, et vous savez qui c'est qu'on a rien à foutre ?
Quoi ?
Electronic Arts. Donc, continuer de décider à ne pas sortir de jeux sur Switch. Ils ont sorti depuis le début, depuis que la console est sortie, ils ont sorti exactement 4 jeux sur Switch.
Donc, FIFA, voilà, FIFA, bravo. FIFA et FIFA.
Si j'enlève les FIFA, ils ont sorti 4 jeux.
Ah.
Les Madden ne sont pas sortis sur Switch. Même
donc, ils ont sorti 5 jeux sur Switch du coup.
Ouais.
FIFA et 4 autres.
FIFA et 4 autres. Mais voilà. Donc c'est quand même extraordinaire. Activision, pareil. Hein, pas un Call of Duty, pas un machin, les mecs ont rien compris quoi.
Et ce qui est bien en plus, c'est que ça veut dire que Nintendo a pas besoin d'Activision et d'Electronic Arts pour vendre des consoles.
Je pense que Nintendo a besoin de personne.
Ils ont juste besoin d'eux-mêmes.
C'est ça. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et ils le font. Voilà, bref, donc c'était la nouvelle un petit peu rigolote. Hein, je mets des guillemets là aussi. J'ai pas l'impression que les ventes ralentissent particulièrement, mais c'est sûr que là, on commence quand même à atteindre, je pense, une espèce de plafond de verre. Tonton Fufu nous a annoncé il y a pas longtemps, ouais, t'inquiète, la Switch 2, on va faire une annonce peut-être bientôt, éventuellement, possiblement, peut-être. On a un gros direct qui est prévu en juin, qu'il va quand même falloir aller motiver les troupes pour la fin de l'année. Et c'est vrai que là, on commence quand même à voir, on a une petite ambiance de fin de règne, dans le sens où il y a quand même beaucoup de remakes, il y a quand même beaucoup de ressorties de jeux qui étaient sur 3DS, qui étaient sur Wii U, qui étaient sur machin. Voilà. Nintendo a bien piraté le catalogue de la 3DS, de la Wii U, de la Wii, pour les ressortir sur Switch. C'est encore une fois, on va parler d'un remake qui a une vingtaine d'années aussi.
Pas loin, ouais.
Pas loin d'une vingtaine d'années. Donc voilà, on a quand même une petite ambiance de fin de règne. Je ne suis pas certain que la Switch atteindra les 150 millions. Je ne suis pas certain que Nintendo poussera pour que la Switch atteigne les 150 millions.
C'est 150 hein, le record, du coup, c'est ça ?
150 ou 155 ?
C'est 160, d'après 160. Les dernières annonces hein, des pompes de Sony. Hein.
D'accord.
Donc, parce que pour être sûr d'avoir un peu de marge, je pense.
Ouais, ils ont racheté 10 millions comme ça pour faire genre gonfler les chiffres et tout.
Ils en ont trouvé dans une brocante à Bar-le-Duc.
C'est ça. Non mais voilà, je crois que c'est la DS, c'était 155 ou 158 millions, un truc comme ça, mais les deux se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche à on va dire 10 millions d'exemplaires près, mouchoir de poche, bon, faut le dire vite.
Mouchoir en forme de Wii U.
Mouchoir en forme de Wii U, oui, de poche, ah putain, ça fait mal.
Ah oui, bah si on rajoute la Wii U, ça y est, la Switch est la console la plus vendue, hein. Vu que globalement, elles ont le même catalogue.
Oui, il y a le catalogue de Wii U est sur Switch, donc à partir de là, est-ce que c'est pas la même console ?
Non, il manque toujours Xenoblade X.
Non, mais il y a une rumeur comme quoi, déjà, c'était une Wii. Hein, c'était juste une Wii améliorée. Donc tu vois, finalement...
Et comme la Wii, c'est une GameCube améliorée, bah, au final, c'est la console la plus vendue de tous les temps, la GameCube.
Et
bah,
finalement,
voilà.
Comme la GameCube n'était pas une évolution de la N64, est-ce qu'on peut pas aussi... comme ça, on est... qui était elle-même une espèce de version 3D de la Super NES. Hein.
Ah bah si on part là-dessus, à ce moment-là, la console la plus vendue de tous les temps, c'est la Game Boy, puisque elle sert de processeur sonore à la Game Boy Advance, qui elle-même se trouve dans les DS.
Et ben voilà.
Putain.
Problème réglé. Franchement, et en plus, la DS, c'est le parent direct de la 3DS, qui est elle-même le parent direct de la Switch. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas compter ça comme ça.
Finalement, est-ce que Nintendo est pas la console la plus vendue du monde ?
Chers auditeurs, désolé pour vos AVC.
Ha 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 ha!
toutes les pièces du puzzle se mettent en place.
Incroyable.
C'est la théorie unificatrice universelle. Mon Dieu. Yes. On va peut-être arrêter de raconter des conneries. Je vous propose de faire une première petite pause musicale avant d'entamer le papier Mario. Donc, on va s'écouter un petit morceau du thème, alors du thème de la version Switch de Paper Mario, la porte millénaire, parce qu'en fait, la BO a été refaite, on parlera un petit peu plus tard. Elle a été réarrangée, réorchestrée dans certains cas, réarrangée dans d'autres, il y a quelques nouveaux morceaux. Ce morceau-là, il existait dans l'original, la porte milléniale.
La porte milléniale.
C'est non.
C'est vrai que c'est un jeu de millénial.
Donc, ce thème-là existait déjà dans l'original. Il s'agit du thème de Mrs. Mouse, le thème 1. Donc, c'est la souris masquée, qui s'appelle... Je sais plus comment en français, d'ailleurs. J'ai pas retenu son nom. Je crois que c'est Miss Souris. Quelque chose comme ça.
Miss Souris, le jeu de mots est valide.
Miss Souris, le jeu de mots est valide. C'était à l'origine composé par Yuka Tsujiyoko, qui, merci Antix, est aussi une des compositrices historiques de Fire Emblem.
Enfin, celle qui a fait les premiers, quoi.
Eh ben, ça fait plaisir, quand même. Voilà, ça dure un tout petit peu plus de 2 minutes, et on se retrouve tout de suite après. Et nous voilà de retour.
Tour !
Et je vous demande donc de reprendre votre sérieux. On va pas y arriver. Hein.
Je vous demande de vous arrêter.
Je vous demande de vous arrêter. Ça aussi, ça pourrait être un jingle. Hein. En fait, il y a plein de trucs qui pourraient être des jingles si Baladur était à la tête de Nintendo. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Franchement, voilà.
Ou alors tu mets Giscard le jour où il part.
Oh non. Oh non, dis pas ça, il mourra jamais.
Il est mort.
Hein ? Il est déjà mort ?
Ah, il est mort, hein ?
Ah non. Non, non, je refuse de croire ça.
Attention, c'est un podcast d'information.
Théorie du complot, Giscard n'est pas vraiment mort, comme Elvis, hein, je veux dire.
Comme la reine d'Angleterre.
Bon, allez, Paper Mario, on va y arriver. Donc, Paper Mario, la porte millénaire, jeu qui est sorti à l'origine en 2005.
Yes.
Donc il y a presque 20 ans.
Sur le cube de jeu.
Sur le cube d'un jeu. Et qui était la suite directe de Paper Mario sur N64, qui était lui-même...
Plus ou moins la suite de Mario RPG. D'ailleurs, au voilà. Japon, ça s'appelait Mario RPG, ou Mario Story, je crois.
Mario Story, Paper Mario. C'est ça. Et du coup, effectivement, on en avait déjà parlé dans l'émission Mario & Luigi, Super Mario RPG, finalement, a eu deux enfants, deux branches qui se sont séparées. Il y a eu Mario & Luigi d'un côté, et il y a eu Paper Mario de l'autre. Et donc finalement, ce Paper Mario, la porte millénaire, est surtout, et avant tout, une évolution de Paper Mario sur N64, qui était lui-même avant tout une évolution de Super Mario RPG. Avec une DA un petit peu particulière.
Et même un système de jeu assez différent, mais on en reparlera.
Justement, on va en parler du système de jeu, du système de combat, et ainsi de suite. Donc, ça reste... Alors, c'est un Paper Mario, donc, comme dans, je crois, tous les Paper Mario, parce que là, maintenant, je les ai à peu près tous faits. Oui. Color Splash, machin, Origami King, tout ça. Les ennemis sont visibles sur l'écran. Ils peuvent t'attaquer, tu peux les attaquer. Donc tu as un système d'initiative qui fait que bah, si tu donnes un coup de marteau sur l'ennemi quand tu es sur la carte du monde, eh ben, tu vas lui faire des dégâts quand tu vas arriver en phase de combat. Et ensuite, il y a la phase de combat où ça se joue au tour par tour avec des pouvoirs de Mario. C'est un peu con.
Qui globalement peut sauter sur ses ennemis et les taper dessus avec leur marteau et utiliser des objets plus 2-3 autres trucs.
Ouais, parce qu'il y a les techniques spéciales aussi qui sont.
Et le système de badge, ça, faudra en parler.
Il y a le système de badge, c'est très important. Il faudra qu'on parle parce qu'effectivement il est très important. Puisque ça fait même partie du level up, ce qui est une petite nouveauté par rapport à Mario 64, Mario Paper Mario sur N64, si je ne dis pas de bêtises.
Non, c'était déjà sur 64.
C'était déjà sur 64? Ok.
Les points badge, c'est ça?
C'est les points badge.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est sur 64 aussi.
Ouais, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le système de base pour les deux, hein, c'est donc... on se déplace sur la carte du monde, comme tu dis, on peut taper sur les ennemis. Mario peut sauter et taper avec son marteau, ce qui lui permet d'interagir aussi avec le décor, pour tout ce qui est exploration. Il sera accompagné de partenaires qui ont des pouvoirs spéciaux, partenaires souvent designés à partir d'ennemis de la série plateforme. Dans chaque jeu, on va avoir un Bobomb, un Koopa et un Goomba en tant qu'alliés. Eux-mêmes auront des pouvoirs qui permettent d'interagir avec le décor, un petit peu comme si c'était des objets dans Zelda. Et je trouve cette phrase extrêmement étrange.
Bah oui, mais c'est un peu vrai. C'est-à-dire que là, un des premiers personnages que tu... Alors, le premier personnage que tu recrutes, c'est une Goomba qui s'appelle Goobline.
Goomelie,
pardon. Qui peut te donner des renseignements sur à peu près tout.
Oui, qui prend le rôle de Goombario sur 64, quoi.
Globalement, c'est la navie du jeu.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Et tu as un des premiers personnages que tu recrutes aussi, c'est un Koopa. Qui s'appelle, je sais plus comment, j'ai pas suivi. C'est pas Koopek, c'est l'autre. J'ai retenu le pas son nom, en fait, c'est assez marrant. C'est...
Oui, t'as retenu le blouson.
J'ai retenu, voilà. Et lui, son truc, c'est que on peut lancer la carapace d'un côté, et puis le laisser tourner en rond, et puis éventuellement lui demander de revenir. Donc on peut taper, en fait, des boutons qui sont un petit peu loin, on peut aller taper des boutons à retardement, c'est-à-dire envoyer la carapace, maintenir la carapace dans un coin, se balader, aller sur un interrupteur, un truc, un bidule, une porte, une plateforme, ce que tu veux, puis lâcher la carapace qui va aller taper le bouton. Voilà. Donc c'est ce genre de pouvoir-là, c'est de l'interaction avec l'environnement, c'est, entre guillemets, effectivement, des objets.
Après, t'as les bobombes qui sont assez explicites, hein. Le but, c'est de les utiliser pour pas exploser les murs. Hein. Et après, t'as un petit peu des trucs parfois un petit peu spécifiques à l'univers. Dans Paper Mario, on avait un soleil qui permettait, par exemple, de voir des choses invisibles. Là, dans celui-là, on a une chanteuse d'opéra qui peut souffler et donc faire disparaître des bouts de décor qui sont cachés par des papiers. Ça, c'est assez bien foutu comme effet. Et deux, trois autres trucs. Bon, je vous laisserai la surprise quand même, parce qu'il ne faut pas vous dire tout ce qu'il y a dans le jeu.
Oui, voilà, c'est pas sinon...
Il y a des partenaires très sympas, bien sûr.
Il y a aussi des pouvoirs de Mario, alors qu'on gagne de manière extrêmement amusante. Enfin, des pouvoirs, ce sont des pouvoirs très circonstanciels, typiquement se transformer en avion en papier.
Alors ça, c'est spécifique à Paper Mario GameCube, pour le coup.
Et donc, on ne peut le faire, donc se transformer en avion en papier, on ne peut le faire que sur les plaques avion en papier. Il y a d'autres trucs, genre devenir tout plat. Alors, devenir tout plat, moi, ça me fait halluciner parce qu'il est déjà tout plat, mais en fait, il est tout plat pas au bon angle. Donc,
oui, c'est ça, en voilà. Fait, tu te changes d'axe.
Tu changes d'axe, que je trouve absolument hilarant. Donc, il y a des trucs où tu peux pas y aller. Même si tu avances devant et que Mario pourrait se glisser, ça marche pas, il faut avoir le pouvoir pour être plat. Je trouve ça un peu ridicule. Et ça, ce sont des pouvoirs que tu gagnes auprès de coffres maléfiques qui... Alors, c'est pas des pouvoirs, c'est des malédictions.
Ouais, alors ils sont extrêmement drôles, les coffres
maléfiques. C'est très très drôle, les coffres magiques, oui, je confirme. Parce qu'à chaque fois, c'est genre, ah, je vais te lancer une malédiction, maintenant tu pourras te transformer en avion là-dessus, c'est super utile.
Et ça tombe bien, c'est ce qui va te permettre de progresser.
Voilà, mais le coffre a l'impression de te faire chier, donc voilà. Donc tu as l'avion, tu as... Enfin, il y a quelques pouvoirs, il y en a une grosse demi-douzaine, si je dis pas de bêtises. J'ai pas tout découvert, mais je crois que c'est à peu près ça.
Bon, il doit y avoir une par chapitre, non?
Un petit peu moins de mémoire. Pas mal. Et pour le coup, je trouve que ça, c'est une des nouveautés de l'épisode GameCube. Je pense qu'avec ce remake et le nouveau design, ça se prête encore mieux. C'est vraiment par rapport à Nintendo 64, dans celui-là, ils exploitent vraiment le fait que Mario est en papier pour pouvoir faire justement cette transformation où globalement, en fait, ils font de l'origami ou des avions en papier que tu faisais quand tu étais en cours, quoi.
Oui, c'est ça. On reprend, on retrouve un petit peu ce qu'on avait dans Color Splash, par exemple, où t'as plein de jeux de mots avec t'as le boss boîte à crayons, le boss ciseaux et ainsi de suite. Le truc joue vraiment avec le fait que c'est un univers de papier. Énormément. Et ça, c'est assez cool. Et donc, d'un point de vue... donc là, c'est pour tout ce qui, on va dire, concerne la partie exploration.
Oui, voilà. Après, c'est ça. On reste sur du RPG un peu traditionnel. J'ai l'impression de me répéter par rapport à la dernière fois. En gros, on va se balader un petit peu dans les donjons, parler à des PNJ pour faire avancer les quêtes. Il y a toujours des petits trucs à explorer. D'ailleurs, ce qui est assez fun dans Paper Mario, c'est qu'ici, les coffres, c'est des blocs, les blocs traditionnels de Mario. On tape dessus et hop, on obtient des choses. Très souvent, soit des objets de soins, soit l'offensive, soit des badges. Ça peut servir dans les combats, donc on en parlera peut-être un petit peu après.
Tout à fait.
Après, qu'est-ce qu'il y aurait à dire d'autre? L'exploration, ça reste assez standard, en fait,
alors,
ces histoires de pouvoir et de partenaire.
C'est ça.
Est-ce qu'on parle tout de suite de la qualité de vie, ou tu vas en parler plus tard?
On va en parler un tout petit peu après.
Ok, ok.
Parce que d'un point de vue exploration, alors, j'ai pas fait celui sur N64, pas à 100%, en tout cas, j'avais commencé, mais j'ai pas fini. Je sais. Je n'avais jamais fait celui sur GameCube. J'attendais un bout.
Mais je ne l'ai pas fait non plus, malheureusement.
Et ben voilà.
Jamais.
Le moment où je voulais le faire, le jeu coûtait 200 balles. Donc bon.
Bah là, maintenant, c'est plus accessible.
Tout
seulement
à fait.
Seulement 70.
C'est pour ça que c'est une très bonne chose qu'il ait refait celui-là. Comment ça, 70?
70
sur l'eShop, 70.
What?
Sérieux?
Non, je sais pas, j'ai pas regardé. Non, mais déconnez, c'était pour déconner.
Bouh.
Bon, bref. Il y en a un qui est en train de regarder le prix, je le sais. Je vous entends sur le navigateur.
C'est aussi performant au journaliste que moi qui prends menu sur Twitter.
Et moi, je vérifie pas les infos. Je les balance au pif et j'attends de voir ce qui se passe.
Ah, ouais, je connais sa stratégie, ça s'appelle le débat CNews.
Moi, j'aurais dit un article de Figaro, mais ok.
Ah voilà,
bon, bah, il est bien à 60 balles. Hein.
44 Ouf. En magasin si tu te démerdes un peu.
Oui.
Voilà, je vous le donne, hein, c'est pour moi, c'est gratuit. Donc j'ai fait quand même Color Splash Origami King. Je trouve que les donjons, alors j'en ai fait que deux, les deux premières gemmes étoiles en fait, je trouve que les donjons sont quand même vachement plus compliqués que ce qu'on avait dans Color Splash ou que ce qu'on avait dans Origami King. C'est-à-dire que l'exploration des donjons, elle est pas du tout linéaire, elle est pas du tout simple. Il y a vraiment des trucs où il y a des trucs, si tu les vois pas, tu progresses pas.
Ah oui, de mémoire, le château, il peut être...
J'étais un peu surpris. Alors après, je ne sais pas ce qu'il y a après, si ça se trouve. Après, en fait, les autres sont à peu près tous du même niveau, il n'y a pas vraiment de...
On en reparlera après, mais ça dépend. En fait, ça dépend beaucoup du chapitre et de ce qu'il veut raconter. Et en fait, les deux premiers sont assez classiques dans leur déroulé. Très souvent, c'est t'arrives dans un lieu, tu vois le problème, tu vas à l'endroit où il y a le problème, tu règles le problème, fin du chapitre. Et à partir du troisième, il commence un petit peu à twister cette formule-là. Et du coup, en fait, il y a peut-être un petit peu moins de donjons. Et des formats un petit peu différents.
Ah, donc intéressant. Donc en fait, les deux premiers, c'est du classique. Et puis après, on essaye de...
Après, ça n'empêchera pas d'avoir des gros donjons pour finir le jeu.
Oui. Mais c'est vrai que j'ai trouvé, tu vois, rien que le château de Chabrobrok...
Dragon, Balek.
Dragon, quoi. Ouktail.
Alors je l'ai mis en français, je le précise, d'habitude j'ai plutôt tendance à jouer en anglais, mais là je l'ai mis en français et c'est vrai que la VF
est très bien.
La version française est vraiment très très bien. Et donc oui, le truc du dragon, je me suis dit, mais merde, la quantité d'aller-retour, de trucs que t'as pas forcément vu, à un moment tu te retrouves sur un truc où t'appuies sur un interrupteur, ça ouvre un pont, tu franchis le pont, t'as un deuxième interrupteur, t'appuies sur l'interrupteur, ça fait de nouveau un pont, tu y vas, puis après... Il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a rien, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il faut aller passer par une fenêtre qui était un peu avant le trou dans lequel tu es, pas forcément très visible, tu vois pas forcément qu'elle est ouverte, donc tu passes, tu vas sur la corniche que tu ne vois pas puisque tu passes derrière le décor, et tu reviens, enfin c'est... Je me dis que c'est le genre de truc où tu peux tourner en rond pendant un petit moment avant de le trouver, celui-là.
Il y a une scène avec un certain personnage avant, justement, qui passe par une fenêtre... Moi, je l'ai vu comme un indice, justement.
J'ai peut-être pas vu ou pas fait attention, c'est possible.
Ou alors la scène arrive après, je peux me planter.
Je sais pas. Mais je trouve que j'ai trouvé que les deux premiers donjons étaient pas si simples que ça par rapport, encore une fois, à ce qui s'est fait après. Tu vois, Color Splash, c'était quand même un peu plus détendu, on va se dire. Origami King, pareil, ça restait quand même des donjons assez, assez simplistes. Bref, il nous reste le système de combat.
Qui est relativement facile, donc comme on a dit, on touche un ennemi sur la carte du monde. Alors, petite subtilité avant le combat, si on le tape dessus, on a l'initiative, c'est-à-dire qu'on lui inflige des dégâts. Si c'est lui qui arrive à nous taper dessus, il va nous attaquer directement. Et si on rentre juste en contact sans qu'il y ait d'agression, on rentre directement en combat et puis ça se déroule classique.
Sachant que tu as de toute façon la priorité sur l'ennemi.
Oui, c'est ça. En fait, globalement, un tour de jeu, ça se déroule, c'est Mario qui attaque, Mario ou son partenaire, on peut choisir de changer l'ordre. Et une fois que les deux ont attaqué, c'est à l'ennemi de riposter.
Voilà. Donc ça reste du vraiment très classique tour par tour, sachant
c'est
que...
du tour par tour dans sa forme la plus pure.
Ah oui, complètement.
Oui, c'est même encore plus simple qu'un Dragon Quest, dans le sens où l'ordre est toujours prévisible.
Ouais.
C'est ça. Et tu choisis aussi l'ordre, c'est-à-dire tu peux faire taper le partenaire avant de taper toi, mais tu, de toute façon, tu, à partir du moment où les deux ont tapé, tu passes ton tour, c'est à l'ennemi de taper. Oui, l'ennemi qui en est 1, 2, 5, c'est pareil.
Oui, et c'est assez intéressant d'ailleurs de dire que changer l'ordre de celui qui attaque en premier change aussi l'ordre, l'inverse, les positions de celui qui est devant et derrière, qui a une importance dans Paper Mario où la position sur l'écran est assez importante. C'est-à-dire que selon les il y a certaines attaques qui ne vont attaquer que l'ennemi qui est devant, alors que il y en a d'autres qui peuvent passer au-dessus. Et du coup, c'est valable aussi bien pour les adversaires de Mario que pour Mario lui-même. Dans le sens où si c'est le partenaire qui est devant, c'est lui qui prendra les dégâts, par exemple des Koopas qui ne peuvent attaquer que le premier ennemi. En tout cas, les premiers que t'as fait. Ouais.
Ce qui n'était pas le cas dans Paper Mario 64, il y avait des ennemis qui pouvaient attaquer votre copain, et ce qui fait que vous ne pouviez plus l'utiliser pendant X tours, et du coup, là, ça change.
Bah là, en fait, les partenaires ont des PV, donc il faut les gérer aussi.
Alors qu'avant, c'était plus un Mario en plus que tu avais plus s'il se faisait attaquer. C'était toujours Mario qui encaissait les dégâts globalement, sauf quand l'attaque de l'ennemi attaquait spécifiquement tout le monde, quoi.
C'est arrivé assez rarement, mine de rien, c'est peut-être juste quelques ennemis en fin de jeu. Ouais. Là, par Mario, c'est plus courant déjà.
Renard nous fait remarquer dans le chat que c'est façon Mario et Luigi où effectivement la position des frangins a une importance dans les attaques, les défenses et autres. Même si c'est peut-être un peu moins prononcé puisque là c'est pas vraiment devant derrière.
D'ailleurs, en parlant de Mario et Luigi, on a le même système de d'action contextuelle quand on fait une attaque. Et pour le coup, ici, c'est peut-être celui où c'est le plus varié parmi tous les Mario RPG. Dans le sens où, il y a toujours quand tu sautes, appuies au moment où on atterrit sur l'ennemi, ça c'est classique. Et du coup, avec les partenaires et certains badges, donc, nouvelles capacités pour les attaques de Mario, on peut se retrouver à mâcher le bouton A, mâcher les gâchettes, appuyer sur des boutons en rythme. Pour pouvoir faire le maximum, et le but de tout ça, c'est de faire le maximum de dégâts à la fin.
Voilà, oui, tu retrouves le même système le même système au départ qu'un Super Mario RPG où en fait les attaques sont interactives.
Oui, et il y a quelque chose de similaire avec le système de défense. Alors, il a été enrichi par rapport au premier Paper Mario. Donc, dans le premier, tu appuyais sur A au moment où tu faisais attaquer pour réduire les dégâts. Ici, il y a un truc qui est un petit peu caché. Ça demande un petit peu de doigté pour être fait et de timing. C'est que si tu appuies sur B, donc là. Sur la version GameCube, c'est même pas carrément tu te défends, c'est tu ripostes. Mais le timing est beaucoup plus serré.
Du coup, ça c'est dans Mario et Luigi pour le coup.
Dans Mario et Luigi, ça. La...
Selon l'attaque, tu pouvais faire une esquive et une contre-attaque.
Oui, là c'est un petit peu pareil du coup.
Alors que le premier Paper Mario, effectivement, il y a que la défense.
Ça. Ah putain, je savais pas. Donc en fait, quand t'appuies sur B au bon moment, ça fait une espèce de riposte, c'est ça? Enfin, c'est un contre.
Ouais, le timing est serré et en plus, je crois que c'est même pas dit dans les. C'est même pas enseigné par le jeu, c'est une discussion avec un PNJ.
Oui, c'est ça. Il y a un tuto qui te le dit.
Ouais, parce que je me disais, je l'ai pas croisé ce truc-là, mais on m'a dit, t'appuies sur A au bon moment pour te protéger, pour te défendre.
Oui, donc, c'est la seule tactique la plus simple, mais. J'avais vu un let's play. Qui est très sympa d'ailleurs, hein, qui s'appelle Paper Mario la porte MDR sur YouTube. Alors, où le gars, en plus de s'amuser avec le jeu, de doubler tous les personnages, se la pète aussi un petit peu au combat en faisant les. Avoir du style en combat, c'est important.
Ouais.
Comme disait très bien Georges Abitbol, faut pas confondre la coquetterie et la classe. Et pour avoir la classe dans Paper Mario, donc faut réussir les actions, et quand on réussit les actions, on fait plaisir au public, puisque chaque combat se déroule sur une petite scène de théâtre, et ça c'est très très cool.
Et ça c'est très très rigolo, donc il y a effectivement tout se déroule, c'est très bizarre, parce que finalement, oui, tout se déroule dans une espèce de mini scène de théâtre, donc quand on est dans un décor X, et qu'on croise un ennemi, et qu'on rentre en combat, ça recrée ce décor, plus ou moins, comme si c'était une scène de théâtre, il y a un public...
En mode vite fait, quoi.
En mode décor de théâtre.
C'est marrant, parce que ça, pour le coup, c'est un truc de Mario Bros 3. C'est l'ouverture théâtre. Sur le théâtre, etc. Et il y avait cette scène-là, et du coup, dans Paper Mario, il y avait cette scène-là, et du coup, dans La Porte Millénaire, il y a carrément un public et tout ça, et c'est vraiment rendu vivant, quoi.
Et le public, effectivement, t'accompagne. C'est-à-dire qu'il te dit... il te récompense pour les actions que tu as faites correctement en te donnant notamment des étoiles qui vont remplir une jauge d'énergie, je crois que c'est ça, de points énergie.
Ouais.
Et ces points énergie permettent de faire des spéciales qui ne sont accessibles pour l'instant qu'à Mario, peut-être qu'il y a d'autres gens qui l'ont. enfin qu'il y a des partenaires qui en ont, mais voilà, le spécial, c'est le truc que tu débloques qui te permet d'aller, par exemple, regagner de la vie en combat, qui te permet d'aller déployer des grosses attaques, enfin voilà, quand même, un truc un peu rigolo. Voilà, donc t'as cette jauge de spécial qui est remplie, et tu as d'autres interactions avec le public, ça c'est, je trouve ça à mourir de rire, c'est-à-dire, de temps en temps, le public, il va avoir une récompense, donc il va avoir un champignon ou un truc comme ça qui peut t'envoyer pour que tu regagnes de la vie, ou alors il va avoir une cochonnerie à t'envoyer. Dans ces cas-là, faut que Mario saute dans le public pour aller casser la gueule au mec dans le public qui a le malus avant de revenir sur scène, ce que je trouve absolument hilarant.
En fait, des fois, t'as même des mecs du public qui montent sur scène et passent en arrière-plan dans les coulisses et vont faire tomber un projecteur ou un élément du décor.
Ah oui, c'est vrai, il y a
ça. Ça arrive aussi à certaines attaques. Alors, le summum étant que... Alors, vous verrez au premier boss ce qui se passe. Parce que je trouve que c'est assez cool.
C'est très très marrant.
Il y a une idée très très fun avec le public. Et du coup, être bon, ça fait venir du public. Être mauvais, ça fait partir du public. Tu rates les actions, tu perds du public. Donc, il y a un intérêt à en avoir beaucoup pour remplir plus vite aussi les jauges d'étoiles. Et donc, faire plus souvent les attaques spéciales.
Tout à fait. Donc il y a un côté, c'est pas que pour la déco, c'est rigolo et il y a plein d'interactions un peu débiles avec, effectivement, comme on disait, mais c'est pas complètement inutile non plus. Donc ça sert aussi le gameplay, c'est ça qui est intéressant. C'est un élément, décoratif. C'est un public, t'es sur une scène. Il y a un côté très très de second degré là-dedans, très très mis en abîme du combat lui-même qui est très stylisé du coup parce que c'est du théâtre. Et en même temps, c'est utile.
Ça se tire en plus, enfin, les RPG, mine de rien, c'est quand même un petit peu inspiré de... Enfin, en tout cas, les vieux JRPG, c'est beaucoup inspiré du théâtre, de l'opéra, sur le côté mise en scène. C'est très scénique, avec personnages très hauts en couleur. Et là, en plus, dans Paper Mario, enfin, les décors sont en carton, comme un décor de théâtre, et notamment des théâtres d'école, où ils ont fait leur décor à la main, avec du carton, du papier, de la peinture et tout. Donc il y a aussi un côté un petit peu clin d'œil avec le design de l'univers qui est assez bien trouvé.
Ça fait. Non, mais c'est vraiment, c'est extrêmement bien pensé. Et donc le dernier petit truc, c'est les évolutions de Mario. Donc on a finalement, comme d'habitude, on a des points fleurs qui correspondent grosso modo à de la mana. Hein. On dépense des points fleurs pour pouvoir avoir des pouvoirs spéciaux, que ce soit pour Mario, pour le partenaire. La jauge est partagée comme dans Super Mario RPG. C'est la jauge de fleurs, c'est la même pour tout le monde. Et il y a une jauge de points de vie à côté. Donc là, il y en a une pour Mario, une pour le partenaire. Chaque fois qu'on gagne un niveau, donc tous les 100... Alors, c'est pas des points étoiles, c'est des étoiles tout
court. Ouais, PE, points d'expérience.
Ouais, alors, il y a plein de points de partout aussi, c'est un peu rigolo. C'est des PE, des PE, des PB, des PA, des PSC. Enfin, c'est un peu bizarre.
Il n'y en a pas tant que ça, je trouve.
Ah bah, t'as au moins 3 trucs qui commencent par P.
Bah, t'as les points de vie, les points de fleurs et les points badge.
Et ensuite, t'as les points d'expérience et t'as les points étoiles.
C'est vrai. Bah, d'ailleurs, en parlant de points d'expérience.
Alors voilà.
Petit mot sur la montée de niveau.
Tous les 100 points. Comme Mario qui gagne 100 pièces, on gagne un niveau. Voilà. C'est à peu près aussi con que ça.
Et quand on monte de niveau, il n'y a pas de montée de stats. On choisit d'augmenter soit les points de vie, soit les points fleurs, soit les points badge.
Et justement, ça nous amène au badge.
Mais dis donc, Jamy, c'est quoi les points badge ?
Ben voilà, qu'est-ce que c'est ? Donc les points badge, alors c'est un truc qu'on ramasse régulièrement dans le jeu, on va ramasser des badges, donc des...
Qui sont très oublis.
Qui sont oublis, vous voyez, en plus ils sont tous différents.
Ouais, et c'est, en fait... c'est des compétences... Que vous pouvez équiper en dépensant des points badge. En fait, c'est tout un tas de compétences actives ou passives. Et en gros, par exemple, vous pouvez choper un badge super saut. Et du coup, il coûte 2 points badge à équiper. Et du coup, en plus du saut de Mario de base, vous avez le super saut qui coûte genre 3 PF, tu vois, 3 points fleurs. Et il y a plein de trucs comme ça, du style monter les stats. Tu peux monter tes... Alors, t'as pas de badge qui monte les PB, bon, c'est parce que ce serait complètement con, mais t'as des badges qui montent les points fleurs, t'as des badges qui montent les points cœurs...
Il y a badge des badges pour augmenter les dégâts que tu fais aussi.
Oui, il y a aussi voilà. Des badges. Alors, je me rappelle de combinaisons pétées dans Paper Mario sur 64, où il y avait un badge qui permettait d'esquiver les attaques ennemies, c'était basé sur la chance, plus un autre qui permettait d'esquiver les attaques ennemies quand t'avais genre 5 PC et du coup t'étais en état critique, plus un autre qui permettait de faire des gros coups critiques de gros bâtards quand t'avais justement 5 PC. Et il y avait des combinaisons où t'étais globalement, c'était l'autoroute, tu esquivais tout, Et tu faisais des grosses mandales de forains dans la tronche des ennemis, quoi. Et tu passais toute ta vie avec 2-3 PC. Ouais, par exemple.
T'as globalement à peu près la même chose dans celui-là, hein, de mémoire.
Et il y a même des badges qui juste ne servent à rien et qui font des effets sonores quand tu tapes avec le marteau.
C'est faux, ce sont les meilleurs badges parce qu'ils sont les meilleurs badges à équiper et qui font juste des bruits rigolos.
Il y a les badges aussi qui changent les couleurs de Mario.
Ouais.
Et ben voilà.
Et si vous récupérez le badge Luigi et le badge Wario, mettez-les ensemble.
Ah, oui. On se transforme en quoi? En raton laveur?
Bah, tu verras.
Hein. Ah putain,
c'est très surprise. C'est du teasing.
Et il y a ça, il y avait aussi, je me rappelle, dans Paper Mario 64, il y avait un badge qui, du coup, alors avait l'air d'être un inconvénient, qui était en fait, qui s'appelait Lambin, et qui empêchait de courir. Et en fait, à un moment du jeu, il devient super utile, ce badge-là. Alors c'est complètement débile à la base.
Bah, tu l'obtiens justement à peu près à ce moment-là, d'ailleurs. Pour justement ne pas avoir à courir.
Oui. Là où courir, c'est pas bien.
C'est bon.
Voilà, donc je crois qu'en termes de système de jeu, on a à peu près fait le tour.
Il y a pas mal de petites variations. Il y a un système de quêtes annexes dans la ville à un moment. Quand on fouille un peu, je crois qu'il y a, tout ce qui est les morceaux étoiles qui permettent d'échanger des...
Mais d'avoir des badges. Toujours plus de badges.
Et il y a un petit système de cuisine aussi.
What?
What?
Est-ce que c'est pas un peu dangereux de faire cuire du papier?
Ah, en tout cas, c'est marité, de mémoire. Alors, je sais plus si c'est marité dans celui-là ou dans 64.
64, c'est goûté. Donc là, c'est marité, je pense.
Donc là, c'est marité. Quand tu vas la voir, tu la rencontres, je crois, justement au moment du chapitre 3. Tu vas la voir, tu peux lui donner des objets pour qu'elle les fasse cuire, et ça donne de nouveaux objets.
Je suppose qu'il devait y avoir des astuces de ouf, quoi.
Et je crois qu'effectivement, il y a des combinaisons assez fortes. Bon, généralement, combiner un champignon et un miel, ce qu'on peut faire immédiatement en mémoire, c'est pas mal, c'est intéressant.
Bah, c'est-à-dire que le système de cuisine, globalement, il fait office de craft pour les trucs un peu basiques. C'est-à-dire, ton champignon, il donne 5 PV, ton miel, là, il donne 5 PF. Bah, si tu combines les deux, t'as 5 PV, 5 PF, en une utilisation d'objet. Donc, en fait, tu optimises tes tours en combat quand tu fais ce genre de truc.
Oui, c'est ça, c'est tu meules le deck, comme on dit.
C'est un peu ça.
C'est un peu le concept. Je crois qu'on a à peu près fait le tour.
Ils auraient dû l'appeler Maïté, la cuisinière, je suis assez d'accord.
Mais peut-être que peut-être que c'était un peu trop tôt, tu vois. C'est too soon.
Mauvaise mémoire.
Bref, on va faire une seconde pause musicale où on va de nouveau s'écouter un petit morceau de la bande originale de Paper Mario, la porte millénaire. Je vais essayer de retrouver le morceau, le voilà. Et ben, c'est tout simplement le thème de la maison de Mario qu'on a au tout début du jeu. C'est encore une fois le thème qui est dans cette nouvelle version du jeu. On y reviendra, hein, vous inquiétez pas.
Il paraît qu'il y a un remake. Bon, remaster, on sait pas.
Ouais, c'est un peu compliqué. C'est le remake donc qui est un petit peu plus jazzy. Vous allez voir, c'est un arrangement un peu particulier. Alors malheureusement, on n'a toujours pas le nom de l'arrangeur, hein, mais la compositrice originale, c'est Yuka Tsujihiko. Et on se retrouve dans un tout petit peu plus de 2 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Et donc, pour la partie histoire, on va dire, de ce Paper Mario la porte millénaire, je vais laisser Antix vous pitcher le scénario de départ du jeu.
C'est par un beau jour de printemps, ou peut-être d'été, bref. C'est par un beau cadre de temps ensoleillé que Mario reçoit une lettre de la princesse Peach. Celle-ci s'est rendue à Port-la-Canaille, c'est à peu de choses près l'équivalent de Marseille dans l'univers de Mario, et a mis la main sur une mystérieuse carte au trésor. Il n'en faut pas plus à Mario pour laisser son frère en plan et prendre le premier bateau venu afin de rejoindre la princesse dans cette ville de bord de mer particulièrement malfamée. Une fois sur place, Pointe Princesse met une goobba archéologue du nom de Goumeli, qui est en train de se faire bolos par les Cruxis, les méchants de cet épisode. Après avoir sauvé la jeune Goomba des griffes des méchants locales, peut-être, celle-ci va guider Mario dans les égouts du port pour y trouver la Porte Millénaire, une mystérieuse structure qui semble réagir avec la carte et qui ne s'ouvrira qu'une fois les 7 fragments étoiles rassemblés. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Qu'est-il arrivé à Peach? Et l'objectif des Cruxis? Luigi fera-t-il encore de la figuration? Et Bowser dans tout ça, n'est-il pas jaloux de ne pas avoir enlevé Peach pour une fois? Plein de questions qui trouveront réponse dans cette aventure loin d'être en carton, où se mêlent combat contre les dragons, championnat de catch, aventure pirate et bien plus encore.
Bravo!
Merci.
Félicitations.
Et la première prise cette fois.
Ah oui, en une seule prise. Enfin, de toute façon, au podcast, vous aurez qu'une seule prise, quoi qu'il arrive.
C'est ça, c'est que la magie du montage.
Voilà, c'est pour les gens qui sont en direct, en une seule prise. Voilà, donc l'histoire générale, c'est ça. Faut récupérer les 7 gemmes étoiles. Enfin, fragments d'étoiles. Non, c'est ça, gemmes étoiles.
Oui, c'est gemmes, j'avais plus le terme en tête.
C'est pas grave, ça arrive.
Bon, c'est les étoiles, quoi.
C'est les étoiles, bah, c'est Paper Mario, quoi. Je veux dire, faut récupérer les 4 éléments. Non, c'est quoi? C'était, oh mon dieu, un RPG où on va récupérer les 4 éléments fondamentaux.
Bah, dans le Paper Mario 64, c'était les 7 étoiles.
Ouais, les esprits étoiles.
Les esprits étoiles, voilà.
Et dans Super Mario RPG, c'était les 7 étoiles aussi. Donc,
bah, je crois que c'était là les fragments.
Ah merde, ah oui, c'est peut-être ça, les fragments d'étoiles.
Ça.
Mais bon, c'est à peu près toujours le même truc. Hein. Peach s'est fait kidnapper cette courge, mais pas si courge que ça, parce qu'en fait, elle a une petite histoire parallèle un peu rigolote.
Bah, pour le coup, là, on va rentrer un petit peu dans, à mon avis, ce qui fait vraiment la force de ce Paper Mario. Alors, le gameplay reste très sympa. Et en fait, c'est vraiment le... Alors, l'histoire en tant que telle est pas spécialement extraordinaire.
Ça reste très classique, finalement. Bah, Peach a été kidnappé.
Il y a une aventure, il y a des méchants, voilà. Très très méchants. Il y a un mystère. Un petit peu plus original que 64, où Bowser a enlevé Peach. Là, il y a quand même une aventure un petit peu... C'est quand même un récit d'aventure, quoi. Il y a du mystère, on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte avant la fin du jeu. Mais par contre, en fait, c'est plus les dialogues et la façon d'en fait est découper le jeu. Donc c'est découpé en chapitres comme le précédent jeu. Et en fait, chaque chapitre, notamment à partir vraiment du troisième, où vraiment c'est là où ça va se sentir, va avoir fonctionné un petit peu, proposer son petit scénario, et c'est des scénarios vraiment très très sympas dans celui-là. Je pense que celui pour moi qui m'a fait dire ok, ils sont très très bons, c'est le chapitre 3. On se retrouve à participer à un championnat de catch et en parallèle mener une enquête dans le gymnase, et je trouve qu'il est assez incroyable celui-là. Je pense que c'est vraiment le pic de Paper Mario en termes d'histoire, d'humour et un petit peu de mystère aussi dans celui-là.
C'est peut-être finalement plus la micro-narration qui est réussie, c'est-à-dire chaque chapitre finalement de l'histoire est très bien écrit. L'histoire au global est pas ouf, mais chaque chapitre avance très bien ses petits pions et ses petits éléments pour justement faire un truc qui soit à la fois drôle, bien écrit, bien foutu, qui te surprenne et ainsi de suite.
Oui, c'est ça, en fait, ça va jouer un petit peu sur tes attentes. Bon, je pense au chapitre 4 qui a un twist qui est vraiment très très bon. Alors, l'exécution est moins réussie pour le coup en termes de gameplay, on fait beaucoup d'allers-retours. Gros inconvénient du jeu, je trouve. Ça nuit pas mal au rythme. Mais par contre, ouais, y a des vraies bonnes trouvailles de narration et qui pour le coup, colle très très bien l'univers de Mario, s'en moque énormément.
Ah, mais ça, c'est l'ADN de la série. Hein.
C'est l'ADN des Mario RPG de manière générale, mais alors. Le côté Floorblood Bowser était déjà un peu présent dans Paper Mario, là il est la puissance 1000. Hein. Le mec va juste partir à l'aventure parce que Peach a encore été enlevé par quelqu'un d'autre. Hein.
Mais pas lui, ouais.
Mais c'est pas lui, tu vois.
C'est justement, il fait une crise de jalousie parce qu'elle a pas été kidnappée par lui.
C'est vrai qu'on retrouve finalement le Bowser un peu pato et idiot dont on parlait dans les Mario et Luigi. C'est vrai qu'il a... Il y a un côté... dictateur fou, mais un peu débile, quoi, finalement.
Oui, mais c'est marrant parce que c'est le grand méchant, mais quelque part, il a un peu un bon fond.
C'est pour ça qu'il fait du kart avec Mario après.
C'est ça. Et qu'il permet à Nintendo de vivre ça avec un jeu qui a 10 ans, quoi, je vais en être clair.
80 millions d'exemplaires vendus.
Tout va bien, tout va très très bien. Voilà, donc c'est vrai qu'en termes d'histoire et d'humour, il y a plein de situations complètement absurdes. Alors, c'est là où il commence, on disait tout à l'heure, à jouer vraiment avec les histoires de papier. Où effectivement.
Oui, c'était très timide sur le premier, et là, ils y vont un peu plus à fond. Hein. Du peu que je connais du jeu, hein. Vraiment, ils y vont plus à fond.
A priori, par rapport au premier Paper Mario, Miyamoto était beaucoup moins présent. Je pense qu'il était aussi pas très présent en Super Paper Mario, parce que c'est l'autre où vraiment les mecs se lâchent. Univers Mario, ils en font un peu ce qu'ils veulent. Je rappelle que le jeu a été développé par Intelligent System, donc une société qui n'est pas interne à Nintendo, pour le coup, même s'ils sont très proches.
Ah, mais malheureusement, la chape de plomb de Nintendo est revenue après, sur les épisodes suivants.
Et c'est aussi, enfin, c'est vraiment ce qui fait le charme du jeu, et même moi qui lui ai trouvé des défauts à l'époque, notamment ces allers-retours qui m'ont un peu plombé. L'humour et l'espèce d'irrévérence et en même temps de respect qu'il y a pour l'univers Mario est assez incroyable. Alors, on parle quand même d'un jeu où le deuxième écran du jeu débarque sur une place où il y a une potence.
Oui.
Et là, genre, ok, donc j'ai mis les pieds.
Non, mais c'est ça, t'as un côté, comme tu disais, à la fois respectueux et irrévérencieux. On joue avec les codes. On joue avec les codes à fond, c'est-à-dire un Goomba reste un Goomba finalement. Mais on arrive aussi à retourner les attentes du joueur, qui est réduit à l'état de spectateur dans certains cas, à finalement faire des trucs complètement absurdes, tourner le truc sur la tête et dire « bah oui, mais en fait, on fait ce qu'on veut. C'est un Mario de papier, donc on a le droit de faire ce qu'on veut. » Et je trouve que c'est vachement bien foutu. Bref, y a aussi le côté, un truc qu'on a malheureusement... perdu depuis, je trouve, dans Color Splash, dans Origami King, c'est le côté, il y a des toads partout. Là, c'est pas le cas, on est encore comme dans le premier Paper Mario sur N64, il y a un village avec des Goombas, il y a un village avec des Koopas, il y a un village avec des souris. Voilà, c'est finalement... Ouais,
et il y a même des espèces un petit peu inédites à l'univers Mario, je pense aux espèces de petits dinos, là, bizarres. C'est des petits dinos,
Yoshi,
pas les Yoshi.
C'est Yoshi, ce n'est pas un autre. C'est vert, c'est un gros nez, c'est un Yoshi. Voilà, faut arrêter. Oui, mais voilà, c'est vrai que dans Origami King et dans Color Splash notamment, on avait quand même cette tendance. Alors, je sais pas si c'est le cas de Super Paper Mario, parce que celui-là est un peu particulier.
Non, alors Super Paper Mario, pour le coup, je pense que c'est le Paper Mario qui a le moins d'univers de Mario dedans.
Oui. Oui, parce que tout se passe dans un truc un peu bizarre, c'est plus de la plateforme que du RPG.
Tu visites des univers parallèles, globalement.
Ouais. Parce que c'est vrai que, voilà, il y a quand même une tendance, dans les deux derniers, sur Wii U et sur Switch, à avoir beaucoup, beaucoup de toads.
Sticker Star aussi, il y a...
Sticker Star, il y a pas mal de toads aussi.
C'est vraiment l'univers de Mario Vanilla. Là, on trouve des designs... Enfin, il y a des Goombas, mais les Goombas, ils ont des petits bonnets, ils ont des... Des petites casquettes de Goombar. Le mieux, c'est les Pianta mafieux. Incroyable. Bon, tu vois, on sort de Mario Sunshine.
Oui.
3 ans après, tu débarques, les Pianta tout gentils, tout mignons et tout. Et là, tu comprends la mafia Pianta de Port la Canaille.
Putain, mais c'est...
Non, mais c'est... Paper Mario, au début, c'était ça. C'est pour ça que moi, j'étais extrêmement déçu quand je voyais les jeux les plus récents. On se disait, on se fait chier, quoi.
Pour le coup, Rogamiki n'arrive un petit peu à s'en sortir avec des pièces d'idées, mais c'est vrai que ça reste quand
mais
même
je,
moins fun
j'avais,
que...
J'avais
que
vu une interview des devs de Origami King qui disait que le Nintendo les empêchait, par exemple, de mettre des toads avec des lunettes, ou des toads avec des chapeaux et tout ça, parce que genre, c'est un truc... C'est limite un peu comme l'univers Mickey et tout ça, c'est très copyrighté, ça doit être très carré, très...
Oh ouais, ils ont du mal à... Ils avaient du mal à se l'approprier aussi facilement qu'à l'époque.
Et c'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment dans l'ADN des Mario RPG de manière générale, et de prendre les trucs et de les déformer dans tous les sens. Quoi.
Mais de manière générale, je veux dire, quand tu es un mastodonte comme Nintendo qui vend 80 millions d'exemplaires d'un jeu qui a plus de 10 ans, et que tu vis avec...
Nintendo
est rentier, quoi.
Rentier Mario Kart 8, c'est ça. Les mecs, ils ont plus besoin de faire de jeux depuis 10 ans. En fait, 80 millions d'exemplaires, ils sont rincés, les gars, il n'y a pas de problème. Tu peux justement te permettre, dans une série en plus un petit peu secondaire, parce que Paper Mario, ça se vend bien, mais c'est pas non plus... un truc de fou. Tu peux justement te permettre de te moquer de l'univers et de le retourner un peu sur sa tête et de faire de l'autodérision. C'est justement un des rares trucs, un Mario standard de la série, que ce soit 2D, 3D, machin. C'est compliqué de sortir des canons, c'est compliqué de faire des choses un peu originales. Tu les fais, mais tu les fais vraiment très à la marge.
Je dirais même que c'est le propre un peu des Mario spin-off, pas développé en interne, de dériver un peu l'univers. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de la cinématique d'intro de Mario Tennis GameCube.
Oui.
Globalement, en fait, c'est un épisode d'un cartoon type Les Fous du Volant, oui. Mais avec Wario et Waluigi en héros, quoi. C'est incroyable.
Il y avait ça aussi dans les Mario Party où ça partait. Les mecs dans le premier Mario Party qui se foutent sur la gueule pour savoir qui est le meilleur.
Mais tiens, je rappelle que Mario Striker, on parlait de Mario Striker Charge Football sur Wii qui a complètement explosé les codes du genre. Je pense que c'est un truc qui passe mal aujourd'hui, mais en réalité, je pense que sur les séries un peu secondaires de Mario, c'est ça qu'il faut faire. Il faut aller chercher ce truc-là, quoi.
Ce qui est cool avec Mario, c'est que c'est un personnage qui est relativement lisse et standard. Donc en fait, le faire sortir de sa zone de confort et de le twister un peu, en fait, c'est aussi ça qui rend les choses marquantes.
Bah oui, c'est ce qui fait aussi un peu la signature du jeu et c'est ce qui rend le truc un peu rigolo. Mais c'est vrai que là, ils se permettent 2-3 trucs. Alors j'ai pas fait tout le jeu, mais je connais quelques-unes des répliques un peu cultes ou des trucs un peu bizarres, un peu second degré, parfois même un peu grivois apparemment dans certains cas. Je me souviens d'une des répliques. J'ai plus exactement la réplique en tête, mais je me souviens d'une où t'es là genre. Peut-être un petit peu limite. Faut jouer avec les codes, c'est un peu dommage de ne pas le faire.
On parle d'un jeu dans sa version d'origine au Japon qui avait un personnage qui était trans. Hein. Enfin, qui l'est du coup dans la version.
Et qui l'est du coup maintenant dans la version.
Mais pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Oui, ça a été censuré dans les versions américaines européennes, ça.
Exactement.
Ouais, c'est Viviane, non ? En tout cas, ça ?
Ouais,
oui, c'est ça. Je voulais aussi qu'on parle un petit peu. Tant qu'on a fait un petit tour du scénario, qu'on parle un petit peu de la DA, de la direction artistique et de la bande originale. Donc la bande originale a été grandement changée, c'est-à-dire qu'elle a vraiment été réarrangée en entier, mais on a la possibilité dans les options de remettre la musique d'origine.
Toujours bien, toujours bon.
Si j'ai un petit peu écouté, ça ressemble quand même beaucoup à la sonorité qu'on a sur Remaking, non ?
Ça ressemble beaucoup à ça, c'est-à-dire que tu sens que ça a été réorchestré de manière, c'est vraiment pas la bande originale qu'on a restaurée, c'est vraiment un truc qui a été réorchestré. Il y a quelques arrangements qui ont été changés, mais c'est vraiment assez marginal. Ça respecte bien la bande originale de l'original. C'est un peu bizarre, hein, mais la BO est assez respectueuse de l'original, mais il y a quand même 2-3 tweaks qui font que, voilà, on peut préférer l'original, on peut préférer le remake / remaster. Mais voilà, donc la BO reste assez classique. Franchement, si là maintenant je te balance un morceau et je te dis pas si c'est l'original ou le remake, tu vas avoir du mal à me dire, surtout si tu l'as pas réentendu récemment, tu vas avoir énormément de mal à me dire que c'est l'un ou l'autre.
C'est... D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait que j'écoute quelques extraits parce qu'il y avait des chouettes musiques. J'aime bien la musique du boss final, notamment.
Il y a, de toute façon, c'est une très bonne BO, il y a quand même énormément de morceaux dedans parce qu'il y a quasiment chaque personnage un petit peu important du jeu a au moins 2 ou 3 thèmes qui sont en fait une variation sur le même thème, ce qui est quand même assez balèze aussi. C'est vraiment très très cool, la BO est cool, et en ce qui concerne la direction artistique, je trouve qu'il y a eu un gros bond en avant. Alors évidemment, c'est en 1080p, machin, Full HD, tout ça, par rapport à la GameCube qui était en 1080p.
Refait, hein.
Ils ont absolument tout refait. Je pense que c'est le même moteur qu'Origami King.
Bah, c'est vrai que c'est en termes de texture et de façon de gérer les décors, ça ressemblait.
Bah, en fait, c'est surtout que ça ressemble beaucoup plus à du papier que l'original. C'est-à-dire que l'original, quand tu le mets vraiment côte à côte, je me suis amusé à faire ça pour Port la Canaille, justement. Tu vois, par exemple, que le sol fait beaucoup plus... Le sol, notamment, de l'auberge, je crois, ça fait pas vraiment papier, quoi. Tu sens que c'est une espèce de texture de bois un peu stylisée qui est appliquée.
C'est ça, ouais.
Mais c'est tout. Alors que là, le nouveau, ça fait vraiment papier. T'as l'impression que tout est plié, que tout est un origami, c'est assez ouf. Donc ils ont été encore plus loin que l'original là-dessus.
Probablement les limites de budget et de puissance de la GameCube qui font qu'ils n'ont pas pu aller aussi loin.
Je pense. Donc la DA est la même, hein, finalement. L'idée, c'est que tout est en papier, mais le truc va un cran plus loin.
C'est vrai que dans les premiers, ça faisait plus dessin animé un peu lisse, avec quelques textures. Et là, effectivement, on voit qu'il y a les moyens, quoi. Il y a les moyens de faire des textures, de jouer c'est à fond ça. Dessus, quoi.
Et l'autre...
D'ailleurs, aspect intéressant propre au remake, c'est que avec toute cette refonte visuelle, le jeu ne tourne plus... est limité à 30 FPS, apparemment, c'était pas le cas sur GameCube. Il y avait un framerate plus élevé.
Alors, sur GameCube, c'était 60 FPS, mais en fait, c'était 60 FPS, mais pas... C'est pas... Il est pas à 60 FPS tout le temps. Il y a quelques passages où il a tendance à ramouser un tout petit peu.
Je pense que les moments où il y a beaucoup de monde à l'écran...
C'est ça. Tu sens que ça commence à galérer un peu. Et alors que là, dans le remake, c'est 30 FPS, mais c'est 30 FPS capé. Hein. Le truc ne bouge pas, il est locké à 30 FPS.
30 FPS pour un RPG, c'est suffisant.
Pour moi, c'est suffisant. Le seul petit truc où ça peut éventuellement être un petit peu gênant, si on est vraiment très pinailleur, c'est les réactions durant les combats. La fenêtre est très large. Je ne sais pas si la fenêtre sur GameCube était plus courte. J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que de toute façon, les timings sont assez larges.
C'était déjà assez généreux sur GameCube.
Ouais, c'est l'impression que ça donne.
C'est pas un jeu qui est très très dur. Hein.
Non, en vrai, c'est quand même assez accessible.
Il y a peut-être le boss final qui, pour le coup, surprend un petit peu la première fois. Et quelques boss optionnels, mais globalement, c'est pas un jeu très dur. Hein.
Non, ça se finit bien. En fait, c'est vraiment l'objectif, c'est là, c'est de suivre l'histoire, c'est de level up, de s'amuser, d'essayer de comprendre un peu comment fonctionnent les ennemis, c'est vrai que là-dessus... Voilà. Donc effectivement, pour finir sur la DA, ouais, là, il y a eu un gros bond en avant, notamment aussi au niveau lumière. Alors, on s'en rendait pas tellement compte sur Origami King ou sur Color Splash, mais en fait, la façon dont est gérée la lumière dans les Paper Mario sur console HD, finalement, elle est relativement importante, notamment en intérieur. C'est-à-dire que là, quand tu revois la version GameCube par rapport à cette version Switch, tu vois tout de suite que tout est beaucoup plus plat, en fait. C'est-à-dire que t'as vraiment juste un éclairage global, t'as quasiment pas d'ombre projetée ni rien. Ça fait une grosse, grosse, grosse différence. Hein. Les premiers bâtiments de Port-la-Canaille, c'est assez choquant quand t'es sur GameCube. C'est vraiment, comme tu disais Jean, hein, on dirait vraiment plus une espèce de dessin animé interactif avec un découpage un peu bizarre. Alors que là, sur la version Switch, tu dirais pas du vrai papier, faut quand même pas déconner. Mais t'as vraiment cette impression de profondeur, t'as des ombres projetées, t'as des endroits qui sont un peu plus sombres, illuminés un petit peu différemment. Bon, ça fait vraiment toute une différence. Pareil, t'as pas mal de petites corrections au niveau graphique. Alors notamment, toujours pareil pour la canaille, c'est un détail. Hein. Quand on entre dans l'auberge et qu'on monte à l'étage, sur la version GameCube, on monte au fur et à mesure les marges, et donc il y a un moment où on ne voit plus Mario. Sur la version Switch, en fait, c'est quand tu montes la dernière marche que la caméra monte d'un coup. Et ça, c'est typiquement un truc qui existe depuis Color Splash, ce qui me fait dire que finalement, ils ont repris le même moteur de jeu, ils ont simplement recréé la porte millénaire à l'intérieur. En tout cas, ça y ressemble beaucoup.
Bon, je pense qu'effectivement, c'est ce qui a été fait. Il y a un moment, c'est aussi un stage d'un jeu existant. Probablement pas, espérer vendu à plus de 2 millions d'exemplaires.
140 millions de Switch, hein, je veux dire, même si c'est juste 1%.
Mais du coup, il y a un moment, tu gagnes aussi du temps et tu prends des outils qui existent déjà. Hein.
C'est clair, c'est clair. Mecton, est-ce que tu veux nous parler des petits changements et des petits trucs de qualité de vie? Parce que tu étais parti tout à l'heure.
Oui, pardon.
Il s'est étouffé avec sa bière, en off. Voilà.
Exactement.
Parfait.
Au niveau de l'exploration, on parlait... bref, je balance le truc tout de suite. Il y a des tuyaux qui sont rajoutés pour faire des semi-voyages rapides qui vont simplifier largement une partie du jeu qui arrive relativement tard. Donc, tant mieux.
J'ai même vu que dès les chapitres 4 et 5, qui sont un peu les gros chapitres d'aller-retour, il y avait ces tuyaux aussi pour gagner du temps.
Ouais. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Une roue pour changer rapidement de partenaire. Sans avoir forcément à passer par le menu.
Oui, parce qu'effectivement, comme on a qu'un seul partenaire actif à la fois, alors sauf ouais. Si ça change après, mais je crois que non. Et du coup, comme ils ont chacun, on a dit, des capacités un petit peu différentes, le fait de changer rapidement, ça peut être utile, surtout a priori vers la fin du jeu, on a besoin d'alterner relativement souvent.
Donc ça, c'est très très cool. Le système d'indices, je suis pas sûr qu'il était là sur la version GameCube.
Ça me dit rien.
Donc le premier PNJ qui nous accompagne, la petite Goombette, on a toujours accès sur une gâchette à un indice qui dit on est là, il faut qu'on aille ici. Quoi.
Ah si, ça existait déjà, c'est ce qu'elle te disait quand tu utilisais cette capacité.
D'accord. Mais là, c'est pas sa capacité. Tu l'as vraiment en accès permanent, quoi. D'accord. Quel que soit le partenaire que tu as, tu peux appuyer sur ZL et pouf, elle débarque par la pensée et te dit hey, on en était à tel endroit du scénario, fallait que t'ailles là.
Et ça, c'est plutôt chouette. Écoute, au point où j'en suis rendu, c'est à peu près tout ce que j'ai vu comme changement majeur.
Qu'il y avait notable. Déjà les raccourcis sur la croix pour accéder au menu ou pas?
Oui.
Oui, ok.
Parfait.
Ok, parce que ça, c'est le truc où je me suis dit, ah, tiens, c'est rigolo, j'avais pas vu sur le premier. Alors après, j'ai fait ça très rapidement.
Je te dis ça oui. À l'époque.
Dans les faits, moi, à chaque fois que j'utilise un raccourci, c'est pas le bon et je finis quand même par changer d'onglet dans le menu.
Mais... Oui, voilà, mais ça, c'est normal. C'est la fameuse souris 3000 DPI qui te permet de cliquer exactement à côté de là où tu voulais, quoi. C'est, on est exactement là-dedans. C'est très, très, très important. Paf.
Donc voilà, pas d'autres changements notables.
C'est ça. Il y a peut-être d'autres petites améliorations qui ont été vues. J'ai l'impression que les temps de chargement vont un poil plus vite. Ce qui n'est pas forcément choquant. Alors, il n'y a jamais eu de gros temps de chargement dans Origami King, par exemple. C'est toujours assez réduit.
Ça reste un jeu GameCube, donc il n'y a pas beaucoup de temps de chargement de base.
Non, c'est clair. C'est quand même assez limité. On avait un dernier petit truc avant de boucler qui était les raisons pour lesquelles finalement c'est un RPG culte. Et un jeu GameCube culte.
Bah, déjà, c'est un bon jeu.
Oui, c'est pas souvent.
Non, mais
pas souvent chez Nintendo, il faut le dire.
C'est rare. Mais c'est aussi,
à part Mario Kart 8, je veux dire.
Mais c'est important de le dire, en fait, de commencer déjà par ça. C'est un jeu qui est agréable à jouer et je pense qu'on l'a pas mal mentionné dans la partie histoire, en fait, ce qui a beaucoup plu aux gens, je pense, à l'époque. Alors, notamment à l'époque sur GameCube où vraiment on avait des spin-offs de Mario pour tout et n'importe quoi. Hein. Je rappelle, Mario fait du foot, Mario fait du tennis, Mario va à la campagne, Mario va à la plage, Mario fait Dance Revolution et donc Mario RPG.
Mario Baseball, Mario, oui.
Bah voilà, avoir un Mario fait du basket chez Electronic Arts aussi. Il y a eu ça.
Du coup,
avoir un jeu Mario qui est un petit peu moqueur et en même temps, voilà, qui a ce niveau d'écriture qui est très très chouette et qui est assez inhabituel, hein, parce qu'à l'époque, on faisait Nintendo, c'est des jeux sans scénario, l'écriture aura des pâquerettes. C'est quand même très très chouette et je pense aussi pour ça que ça a plu à pas mal de monde et que le jeu a une bonne fanbase. Alors le fait qu'il soit pas sorti comme étant quasiment le dernier jeu de cette console comme le premier Paper Mario peut aider, je pense. Hein. Un peu plus de temps pour y jouer, pas beaucoup plus. Ah, je sors Noël 2001 et la GameCube sort la semaine d'après, quoi.
Oui.
On est dans ce scénario-là avec Paper Mario. Là, on est sur un truc où ouais, le jeu voilà, a eu quand même 2 ans pour se faire connaître, même si c'était la période de la GameCube où il était un peu moins connu, et se faire apprécier. Et c'est vraiment une petite communauté de fans qui est assez dédiée. Quoi.
Voilà. Et pour finir, je voudrais qu'on. Il y a une petite bizarrerie dans la com de Nintendo qui, moi, m'a un petit peu interrogé. Nintendo ne parle pas de remake ou de remaster, vous remarquerez, c'est Paper Mario la porte millénaire. C'est pas Paper Mario la porte millénaire HD, Paper Mario la porte millénaire remastered HD+, with Funky Kong, tout ça. Voilà. Ils ne parlent ni de remake ni de remaster jamais. Le seul truc qu'ils ont mis, c'est maintenant disponible sur Switch. Pas plus, pas moins.
Alors, est-ce que c'est parce que, genre, remaster, ça fait un peu mauvaise presse?
Ben, je sais pas, je me pose sérieusement la question de savoir si effectivement d'un point de vue comme il y a pas mal de gens qui ont gueulé sur le fait qu'il n'y a que des remakes, il n'y a que des remasters, machin, c'est un peu lourd.
Mais est-ce que Mario RPG c'était pareil, hein?
Alors Super Mario RPG, oui, Super Mario RPG.
Ils ont même retiré le sous-titre.
C'est ça, oui, ils avaient retiré le Legend of the Seven Stars. C'est Super Mario RPG, maintenant disponible sur Nintendo Switch, comme si... Le jeu était un simple portage, ce qui n'est pas vrai. Hein. Le jeu est beaucoup plus qu'un portage,
mais
le truc a été refait complètement.
Link's Awakening sur Switch, c'était pareil aussi. J'ai réfléchi, il n'y a pas de...
Si, ah bah non. Ah, Link's Awakening, si, parce qu'il parlait d'un remaster. Dans la com, enfin, c'est pas sur D'accord. le titre, mais dans la com, ils en parlaient.
Oui, et même les teasers, les bandes annonces et tout ça mettaient clairement en lumière que c'était un remake.
Ouais, là, c'est vrai que pour le coup, il n'y a pas eu de comparatif avant-après.
Tu vois ?
C'est un peu bizarre, et je trouve, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Après, moi, sur le côté, moi, j'aurais bien aimé avoir un petit peu un vrai remake pour justement, plutôt que de mettre un petit patch pour les endroits un peu dommages, vraiment les allers-retours, vraiment peut-être réécrire ces passages pour qu'ils soient plus fluides et peut-être avoir un truc justement plus intéressant. Là où je suis un peu déçu.
Peut-être que... Alors après, en fait, je pense que c'est toujours pareil, il y a finalement... peu de gens qui ont connu cette version GameCube, parce que c'est Paper Mario, c'est pas non plus une série phare de Nintendo.
Oui, c'est un jeu culte, mais c'est pour...
pour une minorité.
Exactement, une minorité.
Donc voilà, donc je conçois aussi, tu vois, le fait est, c'est pas un jeu difficile à refaire pour Nintendo, dans le sens où il y a l'aspect technique qu'il faut soigner, évidemment. Mais globalement, tout le jeu est déjà écrit, il y a quelques modifications, il y a un peu de qualité de vie, mais c'est pas des choses très très compliquées à faire, en tout cas j'imagine. Et ça permet d'aller ressortir un jeu qui a été très apprécié à l'époque par la critique, donc t'as de bonnes chances que ça fasse. Mais moi, c'est vraiment sur la partie com où on veut pas parler de remake, tu vois. On veut éviter de faire remake, remaster. Peut-être qu'on arrive à une espèce de saturation, hein. Ça fait 2-3 ans qu'on dit, putain, il y a beaucoup de remakes, il y a beaucoup de remasters, on a quand même eu le fameux Last of Us Part 1 qui est ressorti 4 fois sur PS3, sur PS4, sur PS5, et on s'est tous dit, est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce que le marché arrive un peu à saturation, et du coup, en termes de com, on commence à être un peu prudent là-dessus?
Je pense qu'il y a un peu de ça, hein. Et y a aussi, je pense, un truc tout bête pour Nintendo, la GameCube, c'est 25 millions d'exemplaires, la Switch, c'est 140 millions d'exemplaires. Autant présenter ça comme un nouveau jeu, parce qu'en fait, la majorité des utilisateurs de la Switch connaissent pas le jeu d'origine, tu vois.
Tout à fait. Tout à fait. Et puis, de toute façon, le jeu d'origine, c'est les vieux qui le connaissent. Hein. C'est pas la cible de Nintendo, les vieux.
En fait, moi, je pense que si on est quand même dans un jeu... Tu vois, c'est pas Metroid Prime HD, où finalement, il y avait assez peu de tubes, ça a été annoncé un peu en catimini, là. Ça a été annoncé, d'ailleurs, en fin de Nintendo Direct. Oui. Parce que généralement, l'emplacement réservé à Zelda.
Oui, au blockbuster. Oui, voilà, au gros blockbuster. Et attendez une petite dernière chose.
Ou Mario Kart 8. Bon. Et il y a des pubs dans les rues de Paris. C'est un petit peu le gros jeu de début d'année Nintendo, en fait, avec Princess Peach. Et ils te le vendent vraiment comme ça. Après, c'est un bon jeu, donc moi, ils ont raison de le vendre comme ça. Je pense que Mario RPG a bien marché.
J'ai l'impression, oui, que le...
Je pense que The Origami King a aussi plus fonctionné que ce qu'ils espéraient. Et ils se sont dit, il y a peut-être un coup de com' à faire avec ce jeu, en tout cas en France. Pas
c'est
dans les autres pays.
Possible. Ce que je me dis, c'est que il y a un autre truc aussi, c'est que bon, on a Super Mario RPG qui est disponible sur Switch, qui est très cool. On a donc Paper Mario, la porte millénaire qui est disponible sur Switch, ce qui est très cool. On a Origami King qui est disponible sur Switch, ce qui est très cool. Et du coup, finalement, le chaînon manquant là-dedans, en tout cas, on va dire raisonnablement, ce serait Paper Mario de la N64.
Il reste disponible en.
Qui est disponible.
4. Super Switch, extension pack, HD Remix qui coûte la peau des fesses.
Voilà, mais bon. C'est peut-être un peu dommage, tu vois, ça fait peut-être partie des jeux. Alors, est-ce que ça vaut plus le coup? Est-ce que ça valait plus le coup de refaire la version GameCube que la version 64? Peut-être, parce qu'elle est peut-être un peu plus intéressante. On en a discuté par rapport à la version 64 qui est peut-être encore un petit peu basique.
J'aime beaucoup la version 64, mais il faut lui reconnaître que vu les exigences qu'on a pour des jeux vidéo en 4, en termes de narration et compagnie, Paper Mario GameCube se prête beaucoup mieux à l'exercice.
Alors, dans Paper Mario 64, on a quand même Mario qui est accusé de meurtre.
Ah,
je pose ça là.
C'est à quel moment ça déjà?
C'est dans l'espèce de pôle Nord, là, avec les pingouins.
Ah oui, mais ça, c'est le côté très, très second degré du tout le monde a déjà balancé le pingouin par la falaise dans Super Mario 64.
Non, mais c'est vraiment. Et c'est tourné en mode truc de petit meurtre à l'anglaise de Agatha Christie, tu vois. Genre en mode.
Ça, alors ça, et tout. Ça, pour le coup, le petit meurtre à l'anglaise d'Agatha Christie, on le retrouve aussi dans La Porte Millénaire dans un chapitre extraordinaire.
Oh, génial.
Bah, c'est le fameux truc avec le catch, enfin le tournoi de catch, c'est ça.
Alors, il y a le catch. C'est encore un autre truc. Et puis, il y a le chapitre 6. Je vous laisse découvrir, mais il est assez fameux ce moment, très très réussi.
Voilà, ben écoutez, on va se quitter. Avant de se quitter, juste petite phase d'auto-promo, parce qu'il n'y a pas de raison, surtout qu'on ne l'avait pas fait. Nous avons un vide vu qui a été écrit par Jean sur Morbid Lords of Ire, qui nous a été gentiment donné.
Promo
par Merge Games et Hooligan Press. On fait un gros bisou à Sarah si elle nous écoute de nous avoir filé toutes les plaquettes, les présentations, les trucs. Voilà, on a eu tout le kit presse, c'était vraiment très très cool et du coup on a pu faire un article de qualité pour expliquer ce qu'il y avait de bien puis ce qu'il y avait de moins bien.
Les Doritos étaient délicieux.
On fait pas ça souvent donc voilà, on s'emporte un petit peu. Non mais le jeu est sympathique, on va dire. 2-3 trucs en tout cas.
Oh, il marchouille bien, hein, en vrai.
Ça marchouille pas mal. Donc voilà, donc je vous recommande d'aller lire ça. Et le deuxième truc, c'est un petit article, tout petit, hein, vraiment, c'est un petit entrefilet, il y a 3-4 lignes, sur Blue Retro, qui est créé par un monsieur qui se fait connaître sur Internet sous le nom de Darth Cloud, et qui est en fait un petit adaptateur qui permet d'aller brancher n'importe quelle manette compatible Bluetooth, de la manette de Xbox One au Steam Controller, en passant par les manettes 8-bit-do, les manettes officielles Nintendo NES pour Switch, la manette pour le Pro Controller Switch, les Joy-Con, ton clavier, ta souris Bluetooth, tout et n'importe quoi.
Et le vibro de mémé.
Et le...
Putain, ah, c'est projet Genital Justing, ça.
C'est... Oui, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué, cette émission. Voilà, permet d'aller brancher tout et n'importe quoi sur une NES, une Super NES, une N64, une GameCube. En l'occurrence, c'est peut-être la moins utile, mais comme les Wavebirds, ça coûte un peu une couille. Je peux comprendre qu'on puisse en avoir besoin. Sur PC Engine, sur Mega Drive, si vous avez vraiment aucune race. non, mais c'est important. C'est important. Sur Dreamcast, si, voilà. Bon, bref. Donc voilà, il y a énormément d'adaptateurs pour énormément de consoles, et côté Darth Cloud, le mec apparemment travaille sur Atari 2600 et tout ça, en mode on peut le faire aussi, il n'y a pas de raison. Voilà, donc c'est très 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 cool, l'accessoire coûte pas très très cher en plus. Tout est 100%...
Dans les 50 balles, tu disais, c'est ça?
Ben, moi j'ai commandé une version où j'avais NES, Super NES, N64, GameCube... plus un adaptateur, donc la partie active, en fait, vous avez les adaptateurs qui sont passifs, sinon c'est juste des câbles, et la partie active, 48€ livrés.
Incroyable.
Donc voilà, 100% open source, 100% open hardware.
Putain, ça c'est cool.
Donc ça veut dire, vous pouvez le fabriquer vous-même si vous voulez, et il y a tout un guide pour fabriquer soi-même ses câbles, donc c'est vraiment très 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 cool, le mec vraiment disant, bah oui, à cet endroit-là, faut mettre une résistance, là, faut faire ça, attention, sur la version PAL, faut faire ça, donc c'est vraiment très très cool. Et vous pouvez faire des combinaisons un peu délirantes, je vous renvoie à l'article, on peut jouer en mode clavier-souris à Perfect Dark sur N64, ce qui est... Enfin voilà, quoi, c'est...
On est plaisir. Dans la bonne timeline.
On est, voilà, c'est là qu'on se dit qu'on est quand même dans la bonne timeline, on peut jouer avec sa manette Switch sur sa NES, on peut jouer à Super Street Fighter 2 sur Super Nintendo avec sa manette Switch. Voilà, ça a l'air de rien comme ça, mais moi j'ai un gamin qui ne voulait pas toucher à Perfect Dark parce que la manette de N64 c'était, je cite, pas possible cette merde. Fin de citation.
Oh putain.
Non mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était.
Petit con.
Et par contre, tu lui mets une manette Switch dans les mains, la configuration 1.2, et tout d'un coup, le mec se dit, ah, en fait il est cool le jeu. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait plaisir.
C'est encore mieux quand il est à plus de 2 FPS.
Ouais, alors là, en l'occurrence, ça n'améliore pas les FPS.
Ah mince, alors
c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Et lundi prochain, si vous êtes tous très sages, il y aura peut-être un article sur un petit mode sorti par 8BitDo pour transformer une manette de N64 en manette sans fil de N64.
Wow.
Ça, c'est très cool. Et là, quand même, ça fait très plaisir. Un truc que vous pouvez faire vous-même, qui coûte pas très cher, et qui fait peur aux chiens. Voilà. Comment finir cette phrase. Donc voilà, tout va bien. Tout va très très bien. Bref, en tout cas, après cette petite période de promo, on vous fait de très très gros bisous. On vous retrouve la semaine prochaine dans le podcast. Dans 2 semaines, ce sera peut-être le dernier numéro, je me souviens plus.
Je crois qu'il nous en reste encore 2, non?
Je crois qu'il en reste encore 2.
Il est quand le direct?
Quand on aura annoncé le dernier numéro.
Exactement.
Juste après. Voilà, c'est à peu près ça. Bref, en attendant, on vous fait des gros bisous, on vous retrouve dans 2 semaines. Ciao tout le monde.
Ciao, ciao.
Ciao.
Bisous.